Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Mathieu Davina, bonjour.
Bonjour.
Nous nous retrouvons, Mathieu, pour continuer cette série d'émissions que nous consacrons donc au château de Versailles, à ces lieux insolites et ces lieux bien évidemment plus connus. Qu'est-ce qu'on appelle, Mathieu Davina, les appartements de la reine ?
Alors, en fait, le château de Versailles, au moment où il a été construit, a été vraiment partagé originellement en deux parties, c'est-à-dire une partie qui était située au sud du château qui était destinée à la reine et une partie au nord qui était destinée aux appartements du roi. Donc, les appartements de la reine situés au sud, on parle des appartements car il y a un grand appartement que nous allons visiter immédiatement et des appartements intérieurs que nous verrons par la suite. Alors, le grand appartement de la reine se situe vraiment dans ce qu'on a appelé l'enveloppe de Levaux, c'est-à-dire côté jardin. Vous savez certainement que le château a été agrandi à partir du petit château de Louis XIII au fur et à mesure, au temps de Louis XIV. Et à partir de 1669-1670, la surface a été totalement doublée du côté jardin pour constituer le grand appartement du roi au nord et le grand appartement de la reine au sud.
Nous entamons, Mathieu, cette visite par un magnifique escalier.
Nous sommes au niveau de l'escalier de la reine, qui était le pendant du grand escalier du roi, autrement appelé l'escalier des ambassadeurs. L'entrée se situait vraiment au niveau de la cour de marbre au sud, par trois arcades que l'on traversait pour donner accès au palier au rez-de-chaussée de cet escalier de la reine, autrement aussi appelé escalier de marbre car construit entièrement de marbre à l'exception des marches qui sont de pierre, donc avec un travail vraiment exceptionnel de la part des marbriers pour l'époque où on a vraiment une qualité au niveau des paliers aussi des différents escaliers avec des rosaces magnifiques sur lesquelles on aperçoit à peine les joints, ce qu'on appelait les joints.
Il s'agit nullement d'un escalier privé donc ?
Absolument pas. Il faut savoir que il y a très très peu de lieux privés à Versailles. C'est vraiment un escalier le plus public, c'est-à-dire c'est vraiment celui qui est emprunté par l'ensemble de la cour, puisque l'escalier du roi était vraiment réservé aux ambassadeurs et aux grandes réceptions. En revanche, celui-ci était vraiment utilisé par le tout venant. Donc très bel escalier qui a été construit vers 1680, remanié à partir de 1701 avec une ouverture du côté de la cour de marbre, avec un trompe-l'œil en face, avec une balustrade de marbre pour compléter totalement ce trompe-l'œil. Escalier richement décoré, notamment avec les armes de France portées avec l'écu pour symboliser vraiment le mariage de Marie-Thérèse et de Louis XIV.
Alors justement, arrêtons-nous quelques instants sur ces armes de France. Elles sont omniprésentes. Les armes de France, il s'agit du fameux double L de Louis XIV. Elles sont omniprésentes sur le château.
Oui, alors effectivement, ce ne sont pas effectivement les armes de France. On a la couronne de France, mais ce sont les doubles L entrelacées. Il y avait précédemment également les armes de Marie-Thérèse qui ont été biffées par la suite. Donc vraiment symbole où on aperçoit les deux colombes en haut de cet écusson qui est vraiment là pour symboliser l'alliance de la France et de l'Espagne à travers le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse en 1660.
Une fois passé cet escalier, Mathieu, nous entrons dans une grande salle. Il s'agit de la salle des gardes de la reine.
Nous sommes dans la première pièce vraiment du grand appartement de la reine, c'est-à-dire qui se comporte d'un certain nombre de pièces qui, en fait, est totalement symétrique au grand appartement du roi au nord. Ici, nous sommes du côté du parterre du midi, avec cette première pièce qui a conservé un décor purement Louis XIVien, avec des marbres polychromes très chargés, tels qu'on les faisait au XVIIe siècle. Un décor qui n'a absolument pas changé depuis la mort de Marie-Thérèse. Au contraire des autres salons de cet appartement, celui-ci n'a absolument pas bougé pratiquement, au contraire des autres pièces qui ont été remises un peu plus au goût du jour pour des différentes reines.
Après la salle des gardes, nous entrons dans ce qu'on appelle l'antichambre des grands couverts. Et cette antichambre est marquée par la présence des portraits des différentes reines. C'est bien cela, Mathieu ?
Du moins, il y a le portrait au centre de Marie-Antoinette, qui est vraiment très très jeune. Et de part et d'autre, on aperçoit non pas des reines, mais des filles de France, qui sont deux filles de Louis XV, donc Madame Adélaïde et Madame Victoire, qu'on appelait Mesdames Tantes à la cour, qui sont les deux seules qui ont vraiment survécu à la Révolution, puisque l'une est morte en 1799, l'autre en 1800. Fille très importante ici à la cour de Versailles, puisque Louis XV a eu lui-même 10 enfants. En l'espace de 10 ans, à partir de 1727, il avait 17 ans, il a commencé par avoir des jumelles, qu'on a appelées Madame Première et Madame Seconde, puis un dauphin qui est né en 1729, un autre fils qui est né en 1730, et 6 autres filles. La première s'est mariée avec le duc de Parme, en revanche, les 7 autres sont restées célibataires. Elles ont donc une place prépondérante à Versailles, et ici on a 2 portraits, donc de Madame Adélaïde et Madame Victoire, assez âgées. On en aperçoit un également d'une autre des filles de Louis XV, beaucoup plus jeune. Et on a surtout dans cette pièce, qu'on appelle l'antichambre du grand couvert depuis 1785, qui était anciennement grande salle des gardes de l'appartement de la reine, on a un très très beau portrait de Marie-Antoinette par Madame Elisabeth Vigée-Lebrun avec ses enfants.
Alors, une des particularités de ce tableau, c'est qu'il présente un berceau vide. Et ce tableau, on le voit dans le fameux film de Sofia Coppola. Elle incarne un des moments majeurs de la vie de Louis XVI et de Marie-Antoinette par une substitution de tableau.
Oui, alors ici, un très très beau tableau d'Elisabeth Vigée-Lebrun de la reine qui date des années 1785-86, plutôt vraisemblablement 1786. En effet, à la droite de la reine, on aperçoit Madame Royale, donc la fille aînée de Marie-Antoinette et de Louis XVI, qui est née en 1778. La reine tient dans ses bras le deuxième enfant, le deuxième fils du roi et de la reine, le futur Louis XVII, qui est né en 1785. Et à droite du tableau, on a le jeune dauphin qui est né en 1781, alors héritier du trône et qui lui-même présente un berceau vide, effectivement, puisque le roi et la reine viennent d'avoir une fille, Madame Sophie, qui n'a vécu que quelques mois et qui est à ce moment décédée. D'où la présentation par le dauphin du berceau vide. Par ailleurs, ce dauphin, qui est né donc en 1781, mourra le jour de l'inauguration des États généraux. Marie-Antoinette et Louis XVI s'en montreront très affectés puisque tous les corps représentés lors de l'inauguration ne viendront pas présenter leurs condoléances, qui chagrinera énormément la reine et qui se trouvera vraiment très triste le jour de l'inauguration des États généraux.
Il y a vraiment une séparation ce jour-là entre les représentants du peuple en quelque sorte et le roi. Nous renvoyons nos auditeurs à l'émission enregistrée avec Jean-Christian Petit-Fils sur les derniers mois de la monarchie française. Nous retrouvons cette fois dans ce que nous appelons l'antichambre des nobles. Nous sommes là dans un lieu privé, en tous les cas réservé spécifiquement à la reine.
Oui, alors privé autant qu'on puisse l'être à Versailles, puisqu'on est quand même dans le grand appartement de la reine. Et cet espace est quand même ouvert, non pas au public, mais ouvert à large personne. En revanche, il est vrai qu'ici, on est dans l'antichambre dite salon des nobles ou antichambre des nobles, où Marie-Antoinette recevait les personnes les plus proches, c'est-à-dire où elle accordait ses audiences. À défaut de les recevoir dans ces petits appartements, que nous allons visiter immédiatement, on est dans une pièce officielle pour les audiences officielles. C'est-à-dire que la reine est assise sur son fauteuil et chaque fois qu'on se retire, il y a le système de 3 révérences à reculons pour saluer la reine.
Nous entrons cette fois au cœur des appartements de la reine. Il s'agit de la chambre, Mathieu Davina.
Oui, nous sommes dans la chambre de la reine, qui était la véritable chambre de l'appartement de la reine, au contraire du grand appartement du roi, où on a vraiment une symétrie, c'est-à-dire dans le salon d'Apollon dans un premier temps, puis après le salon de Mercure qui deviendra la chambre du roi, où le roi ne dormait pas puisqu'il s'était fait installer un appartement d'étiquette. La reine dormait, se levait et se couchait en public dans cette chambre. Alors, elle a conservé plus ou moins certains éléments d'architecture de l'époque de Marie-Thérèse, mais en fait, elle a été entièrement refaite, surtout à partir de 1725, au moment où Louis XV épouse Marie-Leszinska, où on remet vraiment la chambre au goût du jour. Elle sera largement transformée aussi par la suite pour Marie-Antoinette. Alors, lieu très très important, c'est ici qu'est morte Marie-Thérèse, l'épouse de Louis XIV, le 30 juillet 1683. C'est ici que mourra aussi Marie-Leszinska en 1768. Et c'est ici que sont nés pas moins de 19 enfants de France, publiquement, car il faut savoir que la reine accouche vraiment en public. Alors pourquoi on pourrait s'étonner aujourd'hui de cette scène publique? C'est uniquement pour des questions de dynastie, c'est-à-dire on veut éviter tout problème dynastique avec des problèmes de gémellité ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que l'histoire du masque de fer est complètement invraisemblable, puisque la reine est obligée d'accoucher en public pour pas qu'il y ait de substitution d'enfants, qu'il n'y ait pas une double naissance et que chacun puisse attester de la naissance de l'enfant.
Alors il y a bien évidemment une immense cheminée, nous reparlerons du confort. Au-dessus de cette cheminée, il y a un portrait de Marie-Antoinette. Quand on visite Versailles, on sent vraiment cette présence de Marie-Antoinette plus que certaines autres reines.
Tout à fait, parce que le parti pris de la restauration du château, de la conservation, et nous sommes dans les appartements de la reine, nous sommes vraiment dans un état octobre 1789, c'est-à-dire au moment où la cour quitte Versailles. On est vraiment dans un état fin 18e, puisque la reine y a vécu et on a essayé de reconstituer vraiment cet état-là. En revanche, dans le grand appartement du roi, nous sommes dans un décor purement Louis XIV, puisque les successeurs de Louis XIV n'ont jamais osé toucher au grand décor de l'appartement du roi. Mais comme aujourd'hui, c'est un château qui vit, donc les reines y ont vécu, Marie-Thérèse. Par la suite, à la mort de Marie-Thérèse, la dauphine de Bavière, l'épouse du fils aîné de Louis XIV, a vécu dans cet appartement. Donc il y a eu un changement de décor. Pareillement, il y a eu un changement de décor minimum pour la duchesse de Bourgogne, qui est la mère de Louis XV. Il y en a eu pour Marie-Leszinska, Marie-Antoinette. Donc c'est normal qu'on ait un état 1789 et qu'il y ait très très peu de restes des reines précédentes.
Alors la chambre de la reine est divisée en deux parties. Il y a d'un côté de la balustrade le public en soi et de l'autre côté il y a le lit avec un coffre à bijoux et une série de fauteuils. Pourquoi il y a cette séparation?
Alors, on a effectivement ce qu'on appelle le balustre ou balustrade qui séparait le spirituel du temporel. On retrouvera exactement la même chose chez le roi. C'est-à-dire que tout ce qui est au-delà du balustre concerne le sacré. C'est-à-dire que le roi et la reine sont du domaine du sacré au niveau de l'alcôve. En revanche, ce qui est près de la fenêtre, c'est-à-dire du côté du midi entre le balustre et les fenêtres, on est dans le côté du temporel. C'est-à-dire là où les courtisans viennent assister au lever officiel et au coucher officiel de la reine. Il y a de part et d'autre des fauteuil à la fois pour la reine lors de son habillement, donc vraiment une séparation très distincte pour vraiment marquer les rangs de chacun.
Le lit, Mathieu Davignat, est surplombé d'un dé.
Oui, c'est majestueux. En fait, c'est ce qu'on appelait un ciel. Vous aviez des grâces, vraiment, le système de baldaquin, et tout au-dessus, le coq gaulois. Donc, vraiment, toute une architecture ouvragée, gigantesque pour ce baldaquin.
Une fois passé la chambre, Mathieu Davina, nous nous retrouvons dans le salon qui a un nom bien particulier puisqu'il s'agit du salon de la paix et on se doute qu'il existe un salon de la guerre.
Oui, alors du côté du roi, effectivement, pour respecter cet esprit de symétrie, on a ici le salon de la paix du côté de la reine et on est à l'extrémité sud de la galerie et à l'extrémité nord, on a le salon de la guerre dans le grand appartement du roi. Alors dans ce salon qui a été aménagé à l'issue de l'ouverture de la galerie des glaces, c'est-à-dire entre 1678 et 1684, donc pour le terminer, ces salons, c'était plutôt 1686 pour le décor. Par la suite, a été installé un médaillon énorme où l'on voit un tableau de Lemoine avec Louis XV auquel on présente ses deux premières filles jumelles, donc Louis XV âgé de 17 ans, 1727, où on lui présente ses deux filles, Madame Première et Madame Seconde, les jumelles. Donc je vous ai déjà dit le nombre de filles qu'il aura par la suite, mais ici c'est un des très très beaux tableaux de Lemoine qui a fait notamment le salon d'Hercule dans l'appartement du roi.
Alors nous arrivons, Mathieu, dans le petit appartement de la reine. Le public, j'allais dire, pour arriver dans ce petit appartement, est obligé de passer dans la galerie des glaces, qui est une galerie qui vient d'être restaurée.
Oui, alors on se trouve vraiment dans le passage qui conduisait depuis la chambre du roi jusqu'à la chambre de la reine. Au niveau du salon de l'œil de bœuf, qui est l'antichambre, la seconde antichambre du roi, où on entre vraiment par une porte qui conduit, qui est dans la doublure de la galerie des glaces. Et ce petit passage conduit jusqu'à une porte qui est à la gauche de l'alcôve de la chambre de la reine, qui est vraiment le passage pour rejoindre les appartements intérieurs de la reine. Et alors, une fois qu'on est du côté de chez la reine, il y a deux petites pièces vraiment qui sont les pièces de service de la première femme de chambre. Au-delà, on a une porte qui séparait deux petites pièces qui correspondent aux pièces du premier valet de chambre du roi. Alors, ces pièces étaient complétées par des pièces entresolées au rez-de-chaussée et dans les étages. On a une fameuse porte qui est assez intéressante puisque le duc de Luynes raconte dans ses mémoires dans les années 1750-1760, je crois que c'est 1756-57, je ne sais plus exactement, où il y a un conflit vraiment entre la première femme de chambre de la reine et le premier valet de chambre du roi. Et la première femme de chambre demande à avoir le verrou vraiment du côté de la reine, c'est-à-dire que la reine puisse se rendre comme elle veut chez le roi. Mais à ce moment-là, Marie Leszinska tranche en faveur du premier valet de chambre du roi, qui à cette époque-là était encore un bon temps, la dynastie des bons temps, et le verrou est mis du côté du roi, c'est-à-dire que le roi peut se rendre chez la reine quand il le souhaite, alors que la femme de chambre ne peut pas là.
Un événement, Mathieu, que vous racontez dans votre ouvrage, hein, Les Valets de Louis XIV, paru chez Perrin. Et là encore, je renvoie nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée sur le sujet ensemble. Nous continuons, Mathieu, notre visite dans les appartements privés. Et là, il s'agit d'un lieu, on ne peut plus privé, si je puis dire, un cadeau particulier de Louis XVI à Marie-Antoinette.
Oui, nous sommes vraiment dans l'une des pièces les plus privées, puisque nous sommes dans le cabinet de la Méridienne, c'est-à-dire qui est derrière l'alcôve de la chambre de Marie-Antoinette, dans une petite pièce qui a été aménagée sur la cour intérieure en 1781, que Louis XVI a offerte à Marie-Antoinette pour la remercier de la naissance du premier dauphin, qui est né en 1781. On a donc des boiseries très très belles, avec notamment des dauphins au centre des boiseries, qu'on aperçoit vraiment pour symboliser la naissance du dauphin. Alors on a un cabinet de la Méridienne en raison justement de ce meuble qui est, comme son nom l'indique, pour se reposer dans la journée, au milieu de la journée, donc méridien, méridienne, vraiment pour se retirer dans la journée.
Il s'agit vraiment d'une toute petite pièce, hein, octogonale, et dans laquelle on trouve également un fauteuil. Sur ce fauteuil, il y a la thématique du petit chien, qui est une thématique classique de Marie-Antoinette.
Oui, on a vraiment les petits chiens qu'elle adorait au niveau des pommeaux, des fauteuils. Tout ça est vraiment sculpté pour Marie-Antoinette.
Un buste de Louis XVII.
Oui, un buste pour évoquer Louis XVII. Alors, ce n'est pas le dauphin qui est né en 1781, mais simplement pour évoquer l'enfance dans cette pièce.
Après le cabinet de la Méridienne, Mathieu, nous traversons la bibliothèque et il y a également à côté de cette bibliothèque un supplément, c'est bien cela de bibliothèque ?
Oui, donc Première bibliothèque, supplément de bibliothèque, et en face de ce supplément de bibliothèque, qui donne également sur la cour intérieure, l'anciennement grand cabinet qui est devenu le cabinet doré, qui a été restauré il y a peu de temps, vraiment pour cabinet de salon de compagnie pour la reine. Et au-delà de la porte, on est sur vraiment un tout petit cabinet qu'on appelle le cabinet des poètes avec des boiseries superbes, et on débarque ensuite dans l'antichambre du grand couvert de l'appartement du roi. Donc c'est vraiment une idée de tout ce petit appartement qui tourne complètement autour de la cour intérieure, des pièces qui sont vraiment tout autour de la cour. Il y a une chose à préciser vraiment dans ces appartements intérieurs, c'est que la reine s'est réfugiée vraiment dans des parties exiguës, puisque la cour s'est installée à Versailles en mai 1682 et toute la partie sud de la cour de marbre était dévolue à la reine, toute la partie nord à partir du salon central qui est maintenant occupé par l'actuelle chambre de Louis XIV. On avait à l'époque un salon central qui était commun à l'appartement du roi et à l'appartement de la reine. Or, Marie-Thérèse, l'épouse de Louis XIV, meurt en juillet 1683. Et là, à ce moment-là, Louis XIV en profite pour annexer tout l'appartement intérieur de la reine, c'est-à-dire y compris la partie sur le cour de marbre. La reine a dû se contenter de son grand appartement sur les jardins et aussi elle a annexé ses petites pièces que le roi a également de son côté, du côté du roi, mais le roi a un véritable appartement sur la cour de marbre que n'a plus la reine. Donc on a une succession de petites pièces qui se sont rajoutées au fur et à mesure. Et vraiment, avec Marie-Antoinette, en fonction de sa personnalité, autant les reines, et au moins la reine Marie Leszinska qui l'a précédée et les dauphines auparavant, qui n'avaient pas une forte personnalité, se contentaient de petites pièces. Et là, on a annexé, on a construit, ce qui a réduit d'autant plus les cours intérieures. Donc ce sont des pièces, comme ici, donc devant, on est dans le cabinet doré, qui sont des ajouts successifs du XVIIIe siècle, parce que la reine a cherché à se constituer vraiment des lieux privés, en entresol, à l'étage, à l'attique, etc.
Nous nous situons cette fois, Mathieu, là encore, entre cette fois l'antichambre du grand couvert et à ma droite une petite cour intérieure. Et il faut bien, pour se rendre compte, se mettre en tête que chaque grande pièce du château de Versailles est doublée en quelque sorte d'antichambre.
Alors, pas vraiment les antichambres, on est vraiment, oui, là, derrière l'antichambre du grand couvert de la reine, pour pénétrer, où nous étions il y a quelques instants, dans les appartements intérieurs de la reine, c'est-à-dire vraiment les pièces privées qui sont toutes construites autour de cours intérieures. Et l'entrée officielle de ce petit appartement se faisait justement par cette pièce où on a un escalier de dégagement qui est bien plus important que les petits escaliers que nous allons voir, qui sont des escaliers de service à vis pour rejoindre vraiment les tout petits appartements.
Oui, puisque à Versailles, on passe, quand on visite Versailles, d'une pièce à une autre sans passer par un couloir, mais jouxte de nombreux couloirs, de nombreux escaliers et de nombreuses cours intérieures.
Oui, on a des couloirs de dégagement vraiment par rapport aux grands espaces et aux petits espaces. Il faut vraiment des axes de circulation qui sont cachés et qui sont derrière les grandes pièces.
Et à l'époque, on passait d'une grande pièce à une autre ou bon, on passait par ces couloirs avec bien évidemment tous les valets et tous les gens de service qui travaillaient au château?
Alors effectivement, tout dépend de la qualité de la personne qui est amenée à suivre la reine. Évidemment, pour les personnes de service les plus proches de la reine, en l'occurrence les femmes de chambre, les dames d'honneur, les dames d'atour, empruntaient ces espaces. Pour les autres personnages, il y avait des accès, ils étaient reçus dans le grand appartement de la reine, comme on le disait tout à l'heure, dans l'antichambre des nobles.
Mathieu, Davina, nous arrivons au terme de cette émission sur les appartements de la reine et je souhaitais terminer cette visite en fait par un endroit bien particulier qui est à une quinzaine de mètres juste derrière la chambre de la reine. C'est un lieu bien particulier, il s'agit d'un couloir. Que s'est-il passé dans ce couloir ?
Nous sommes revenus dans le passage qui conduit de chez le roi à chez la reine, et lors des journées d'octobre, la reine était dans sa chambre, le roi était dans ses appartements à l'autre bout du couloir, et la reine a essayé de rejoindre, à la suite des émeutiers qui arrivaient de Paris, son mari, Louis XVI. Or, il s'est trouvé qu'au moment où elle emprunte ce passage, qui est normalement le passage habituel du roi et de la reine pour se rejoindre, au niveau du salon de l'œil de bœuf, c'est-à-dire du côté de chez le roi, la porte était bloquée déjà par des émeutiers. Elle a donc décidé d'emprunter un petit passage qu'on appelle le passage du roi, et qui est un passage en entresol, donc qui conduit sous l'ensemble de l'appartement du roi et qui va tout en dessous, donc on est en train de descendre dans ce petit passage entresolé qui, à droite, lorsqu'on arrive au niveau de l'escalier, conduit à l'appartement de service de la gouvernante des enfants de France, et à gauche, vraiment passage qui est au-dessus de l'appartement du dauphin au rez-de-chaussée, qu'on aperçoit à travers des fenêtres qui, évidemment, à l'époque, étaient couvertes par des rideaux. On passe sous l'œil de bœuf, ensuite cela passait sous la chambre du roi, sous le cabinet du conseil, et on arrivait de l'autre côté au niveau de l'escalier semi-circulaire chez le roi, et la reine a pu ainsi rejoindre Louis XVI sans avoir à rencontrer les émeutiers de Paris.
Elle ne reviendra plus à Versailles.
Non, c'est-à-dire que vraiment, en cette soirée d'octobre, en 6 octobre, lorsque la reine, le roi et les dauphins sont amenés à Paris, ils espèrent encore revenir à Versailles, un espoir qui durera jusqu'en 1792, puisque le château sera toujours entretenu comme si la famille royale allait revenir. Ils sont installés aux Tuileries, puis après, on connaît la suite.
Eh bien, merci beaucoup, Mathieu, pour cette visite. Je renvoie nos auditeurs aux références bibliographiques inscrites sur le site, sur la fiche de l'émission. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs pour un nouveau volet sur cette visite des grands lieux du château de Versailles. Merci. Restez à l'écoute de Canal Académie et à très bientôt.